On se lance tête première dans ce nouveau segment qu'on a mis sur pied la fin de semaine dernière qui s'appelle « Personne n'en parle ». En ce dimanche de « Tout le monde en parle », nous on joue à « Personne n'en parle ». À chaque semaine, on invite une personne à venir nous rencontrer en studio et on essaie humblement de jaser de choses dont on jase pas habituellement avec cette personne-là. La semaine dernière, c'est Jérémy Demé qui s'est prêté à l'exercice. Et cette semaine, c'est India Desjardins qui est avec nous. Bonjour India.
Salut.
Salut India.
Alors, on va essayer. Bon, c'est sûr qu'on va parler un petit peu d'Aurélie Laflamme quand même à un moment donné, là. Mais on va essayer.
Je vais m'en occuper.
Ouais, c'est ça. On va essayer de pas commencer par ça parce que ça s'appelle Personne n'en parle et oui. Tout le monde parle d'Aurélie Laflamme avec raison parce que c'est un succès phénoménal. On va commencer avec quelque chose de léger. India, t'as frôlé la mort?
Oui, c'est vrai.
On commence ça en douceur.
Quelquefois.
Écoute, j'ai une amie qui a fait une embolie pulmonaire, OK? Oui. Et. On était au secondaire, coup de chance, était à la maison parce que très malade, puis est venue à l'école, puis elle a fait comme sa crise à l'école pendant qu'il y avait des gens, appelle l'ambulance à côté de l'hôpital, puis ils l'ont sauvée. Et on dit d'elle que c'est une miraculée parce que c'est vraiment absolument dramatique une embolie pulmonaire.
Ben oui, parce que tu sais qu'à une certaine époque, ça s'appelait la mort subite.
Non, la bière, mort subite, ça vient de là.
Ben là, je sais pas.
Non, mais il faut quand même faire des liens. Non,
Mais oui, parce qu'on savait pas, avant que la médecine soit plus poussée, là, ça s'appelait une mort subite parce qu'on comprenait pas pourquoi les gens mouraient d'une façon, parce que tu meurs vite avec ça.
Mais là, toi, t'es là.
Oui.
Donc, t'es une miraculée aussi.
Oui. Je suis très chanceuse. Puis, je suis vraiment très chanceuse. Mais c'est rare, ton ami, par exemple, à l'adolescence, est-ce que c'était la pilule anticonceptionnelle aussi?
Écoute, la raison exacte, je pourrais pas te dire. Je sais qu'elle prend encore aujourd'hui des médications pour éclaircir le sang. Parce que c'est un caillot, c'est un caillot, finalement, là, qui fait que.
Oui.
Qui monte dans le poumon, finalement.
Dans le poumon, oui, c'est ça.
Et bref, écoute, je me souviens, le père d'un de mes chums est urgentologue, puis il connaissait cette jeune-là, on était dans la même gang d'amis, puis il avait dit, tu sais, quand on dit miraculé, c'est parce que des embolies pulmonaires, d'habitude, on fait tout ce qu'on peut, mais on les sauve pas.
Oui, ben t'sais. En fait, il y en a qui sont sauvés. Ben c'est comme les crises cardiaques, c'est qu'il y a des gens qui en meurent, il y a des gens qui survivent. Donc, l'embolie pulmonaire, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est pas un 100% de chance de mourir, mais... Tu peux en mourir puis tu peux survivre comme une crise cardiaque finalement.
Ça doit remettre les choses en perspective pareil quand tu passes à travers ça.
Ben moi,
les priorités, mettons, puis les valeurs là.
Ça a été vraiment à l'origine d'Aurélie Laflamme en fait parce que je me suis questionnée beaucoup sur la mort. J'avais 28 ans quand j'ai eu mon embolie pulmonaire puis c'est sûr que je me suis questionnée beaucoup sur la mort et c'est ça qui a été à l'origine d'Aurélie dans le fond parce que je me suis demandé c'était quoi mes croyances par rapport à la mort. Tu sais, je me suis dit, si j'étais décédée, je serais allée où? Mes grands-parents croient au paradis, tout ça. Fait que moi, j'ai jamais jugé les croyances de personne. Donc, mes grands-parents qui sont décédés, je les imagine au paradis parce que eux, c'est à ça qu'ils croyaient. Mais moi, c'est quoi mes croyances à moi? Puis ma seule réponse, c'était je le sais pas. Puis Aurélie est apparue à peu près dans cette période-là dans ma tête. 14 ans, dont le père était décédé quand elle avait 9 ans, et qui n'a pas les repères spirituels comme d'autres personnes ont, et dont la mère est possiblement athée ou agnostique. Et quand Aurélie lui a demandé « Il est où mon père dans l'univers? », sa mère lui a répondu « Comme moi, j'aurais répondu comme mère, peut-être, je le sais pas. » Et comment on survit à ce « je le sais pas » là, où tu imagines ton défunt, tu sais. Puis Aurélie s'est beaucoup réfugiée dans son imaginaire. Donc, c'est ça qui la rend un peu différente des autres parce qu'elle a vécu une tragédie dans le début de sa vie.
Parlant de repères spirituels, tu t'es mariée, c'était avec ton conjoint qui est caché dans le coin du studio, Olivier Bernard, dit le pharmacien pour les intimes.
Ouais.
Vous vous êtes donc unis par les vœux sacrés du mariage.
Oui.
C'est quoi, Marc? Rappelle-moi, c'est quoi l'analogie que tu faisais, bateau de croisière, l'autre fois, Marc? T'en souviens-tu, là,
ça? Ah, ben oui, on disait, parce que India, on est chum, ça fait 10 ans, j'étais à son mariage, quel honneur.
Ouais.
Puis là, on avait, la semaine passée, on parlait, on dit, c'est qui se marie encore? Tu sais, je disais, si le bateau s'en va, le bateau de croisière, le capitaine dit, ah, il y a 50% des chances que le bateau coule, tu crieras pas, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais India, on a eu tous ces débats-là, puis c'est certain que moi, j'étais heureux en crime d'être là.
Ben, non, mais je vais t'expliquer pourquoi je me suis mariée. Moi, ça, tu sais, oui, c'est sûr que j'ai déjà eu ces pensées cyniques-là, le bateau coule, blablabla. Bla, bla,
ouais.
Bon,
c'est sûr qu'à citer un ami proche de Marc, c'est un peu déprimant de penser
non,
au mariage.
Non, mais attends, attends un peu. Combien de fois j'ai souligné que jamais j'ai été contre le mariage? Ça part à
ouais, c'est ça.
C'est une observation.
Je comprends.
Avec India, on est capable de jaser de tout. Mais, ce qui est quand même un plus.
Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, je me demandais justement pourquoi on fait ça encore aujourd'hui et tout ça. Et bon, on vient de parler de mon embolie pulmonaire. J'ai eu aussi, je dois avoir des problèmes sanguins, mais j'ai eu aussi, il y a un an et demi, une thrombophlébite. Donc,
c'est quoi ça?
Ben, ça, là, c'est c'est qu'un caillot de sang aussi, mais c'est pas dans le poumon. Mais ça aurait pu se déplacer dans mon poumon. Tu comprends?
Oui,
fait que j'ai encore une fois passé près de la mort. Je peux pas avoir d'enfant à cause de ça, parce que ça rend ça très à risque pour ma santé.
Okay.
Et mon chum et moi, on s'est comme questionné sur la famille. Tu sais, c'est quoi être une famille? C'est quoi avoir une famille? Puis on s'est dit que le mariage, pour nous, ça devenait symbolique. Mais là, maintenant, comment on fait ça? Parce que tous les deux, tu sais, bon, justement, les repères spirituels, tu sais, c'est pas nécessairement religieux et tout. Et on s'est dit, est-ce qu'un mariage peut nous ressembler? Et la réponse, c'est oui. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de façons de se marier. Puis nous, on avait envie de quelque chose de symbolique. Puis on avait vécu des choses difficiles à cause du deuil, de la parentalité. Puis on avait envie de faire ça chez nous, dans notre maison. Puis pourquoi dans notre maison? C'est pour mettre des beaux souvenirs par rapport aux choses difficiles qu'on avait vécues. Puis je te jure, là, ça a été l'été dernier dans notre cour. Puis là, maintenant, là, ma maison est comme remplie de beaux souvenirs. Puis on l'a fait à notre façon, c'est-à-dire que c'est mon ex qui a été le célébrant.
Oh, donc, palais!
C'est lui.
Non, mais c'était parfait. Attends un peu. Je veux dire, c'est Simon-Olivier Fecteau. Attends, il faut que je dise c'est quoi la... Non, mais attends, juste pour te dire, c'était quoi le ton là, du mariage? Quand je te dis que j'étais comme blasté de bonheur. Sa première, OK, il y a un petit violoniste qui joue tout, on est dans la cour. Tu sais, vraiment, là, Laura Ashley. Sa première phrase, c'est « Bon, ben je suis vraiment content, nous sommes tous ici pour souligner le fait que ma femme c'était le 18 juillet. Mon gars, il t'a écrit de quoi de fou, là? C'était, c'était malade.
Je l'ai co-écrit avec lui, mariage. Oui, on a vraiment... Puis Olivier, il a participé. On se faisait des séances de brainstorm.
C'était un projet, là. Oui. Vous avez fait un projet.
Oui, nous, ça a été vraiment quelque chose qu'on a fait ensemble. Puis on ça a vraiment été quelque chose qu'on voulait le fun.
Absolument.
À notre image. On voulait pas que ce... Tu sais, puis je pense que le mariage, ça peut être ça aujourd'hui. Ça peut être... Regarde, ça, c'est un beau moment qu'on a choisi, qu'on l'a fait à notre façon. Ça nous a pas coûté une fortune. Ça nous a coûté ce qu'on pouvait mettre
comme argent. Ça avait beaucoup de personnalité. C'est ça que moi, j'ai vu. Là,
c'était vraiment nous.
Mais ce qui amène encore, ma théorie là-dessus, c'est que ce qui amène encore les gens dans les églises, là, c'est plus la pratique religieuse, c'est la cérémonie. Tu sais, c'est de marquer, rendre hommage à une personne.
Oui, c'est ça.
Tu sais, marquer l'entrée dans le monde d'un bébé.
C'est un peu publiquement dire quelque chose.
Ouais,
c'est ça,
exact.
Dans le fond, tu sais.
Ça le marque comme officiellement.
Puis tu sais, nous, c'est sûr que, tu sais, si tu te maries, tu penses pas nécessairement à ton futur divorce. Tu sais, je pense que c'est pas une... c'est pas une bonne façon d'aborder ça. Tu sais, on pense au moment. On pense... tu sais, puis écoute...
Olivier, dans le coin, là, puis il regarde à terre, il fait « Ah, oh, non, pas aux autres. »
Lui, il doit passer au divorce. C'est scientifique, lui, de se dire « Ah, 50% de chance,
il est toujours deux. » Parce que mon chum est très romantique. C'est lui qui m'a rendu romantique, même. Oh. C'est lui qui m'a fait croire à ça. C'est lui qui est la partie romantique de notre couple. Puis pour lui, c'est important de se créer des moments. Et moi, j'avais jamais eu ça. T'sais, lui, c'est important pour lui de souligner. C'est comme d'aller souper. Il aime ça m'inviter en date. Donc, tu sais, on se fait des dates, puis c'est dans notre agenda. T'sais, lui, il est très comme ça.
Okay.
Il est très romantique, mon chum.
C'est pas vrai qu'il n'y ait pas de micro pour se défendre.
je pense pas qu'il se défendrait. Je pense qu'il dirait, vrai.
India, à la veille de la sortie du tome 9 des aventures d'Aurélie Laflamme, c'est-à-dire mercredi.
Il est sorti mercredi.
Ouais. T'avais, là, à ce moment-là, fait qu'on compte pas le tome 9, t'avais vendu 2 millions de copies du journal d'Aurélie Laflamme, traduites en 5 langues.
Ouais.
Il y a 2 films qui ont été faits avec ça.
Ouais.
As-tu des REER?
C'est bon, je l'avais pas vu venir.
Oui, j'ai des bons placements. Mais tu sais, calcule ça. Là. C'est sûr que c'est des gros chiffres. Là, mais mettons, si tu fais un calcul que mon premier Aurélie est sorti en 2006, tu sais, je veux dire...
Ça fait 12 ans.
pense que tu peux calculer que j'ai un bon salaire, mais j'ai un salaire normal. Ouais, okay. Fait que oui, ouais, j'ai des REER.
Il faut que les gens sachent que l'édition, là, je peux te dire que le prix du livre. Non, mais le prix du livre qui est à quoi? Il est à combien ton livre?
15$.
Bon, il reste pas 14$.
Non, c'est ça. Non, mais je pose la question parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont artistes. C'est plutôt des musiciens, mais pour moi, être auteur, c'est un peu aussi être un artiste. Et tous les artistes que je connais partent du principe qu'eux autres, ils préfèrent être riches dans leur cœur que dans leur poche. Ouais. Fait que je me demandais à partir de combien de livres, là, tu sais, faut que tu vendes pour commencer à avoir une vie normale puis pas, tu sais, tirer l'or par la queue.
Ah, ça, je sais pas, mais tu sais, je vais te dire une affaire, là. Moi, quand j'ai décidé d'être auteur, là, je l'ai vraiment pas faite pour l'argent. Tu sais, ouais, j'étais journaliste. J'étais sur le bord d'être syndiquée au Journal de Montréal. Puis j'ai décidé de laisser ma job puis de prendre juste des contrats de journaliste pour payer comme l'essentiel. Puis je me disais, à côté, je vais écrire des livres parce que c'est ma passion, c'est plus fort que moi. Mon premier livre que j'ai écrit, avec l'argent que j'ai fait avec ça, je me suis acheté un set de chambre, juste pour te dire. Là, que...
On est là.
Puis je l'ai encore aujourd'hui. Ouais. Ben, tu sais, j'ai choisi quelque chose de beau. Donc, tu sais, je me disais, ah, ben toute ma vie, ça va être comme ça. Je vais être journaliste d'un côté, puis ben de l'autre, je vais vendre des livres, puis avec le petit peu d'argent que je vais faire, je vais m'acheter des affaires pour décorer ma maison, je sais pas trop quoi. Mais finalement, j'ai été chanceuse. Finalement, mes livres se sont bien vendus. Ça se vend bien en France aussi, en Allemagne.
C'est-tu plus payant à l'étranger? On parle d'argent, là.
Non, parce que regarde, ici, j'ai vendu 1 million. En France, 1 million.
Oh, OK.
Donc.
Non, mais il en reste combien de plus, sais-tu, quand un livre vendu en France ou un livre vendu au Québec dans tes poches?
Au Québec.
Au Québec, OK.
Oui, parce que
Parce que pour les chanteurs, on sait que les droits d'auteur, c'est beaucoup plus payant en France pour les chanteurs.
Ben, c'est parce que en France, j'ai un petit peu moins de pourcentage sur les ventes, mais aussi, c'est qu'il faut que je partage le montant avec mon éditeur. Mais là, maintenant, j'ai changé mes contrats, puis peu à peu, là, je suis en train de récupérer mes droits. Puis pour celui-là, j'avais une entente avec mes éditeurs. J'avais un contrat juste avec ma maison d'édition française qui passait pas par ma maison d'édition québécoise. Hey, ça se peut pas que vos auditeurs trouvent ça intéressant, là, sur mes contrats. Contrat. Ça, là. Ben, parlons de quelque chose de que moins concret.
Paul, peux-tu revenir avec le titre du segment?
Personne n'en parle.
Et voilà.
Personne n'en parle.
Mais oui, on va parler des clauses de mon contrat.
T'es 93, c'était pas Radio Tizone, là. Les gens, ben voilà.
Et ça, vous allez avoir des grosses cotes d'écoute, les boys.
Je te garantis. Non, là, tu penses que c'est pas une radio de variété où il faut avoir un petit fond musical. Les gens, là, je suis convaincu, sont ex de un, ils te connaissent.
Veulent entendre parler de mes REER. Ils se sont dit, hey, moi, Élisa Desjardins, là, il y a quelque chose que je voudrais savoir sur elle. C'est REER.
Combien?
Là, on va revenir à Aurélie. Okay? Là, on va revenir à Aurélie Aflamme. Okay? C'est ton 9e tome. D'ailleurs, il faut dire.
Hey, non, OK. Cette semaine, je suis allée dans une autre radio.
Oui.
Bah, je ne sais pas si j'ai le droit de nommer.
Je pose des questions insignifiantes.
Mais non, très, très sérieuse. Et on se questionnait sur Tom et Tom. OK.
Hey, mon Dieu.
Et
personne n'en parle de ça.
On a fait des recherches. Et bien que la prononciation qui rime avec pomme et recommandé. Oui. Les deux sont acceptés en autant de toujours dire que la même personne dise la même chose.
Donc, même niaiser sur mes questions de REER.
Ouais, c'est ça que j'allais dire.
Mais moi, c'est ma passion, comme, hey, c'est le français, ouais, la grammaire, ouais. Je suis une auteure, ouais. Je suis pas une comptable. Ouais. Bref, tu peux dire ce que tu veux en autant que tu dises tout le temps la même affaire. Et moi, j'ai choisi de dire tombe parce que je suis plus à l'aise avec ça.
Alors, il y a une distance, c'est important. Ouais.
Et il y a maintenant 9 volumes du journal de
Oui, 9
India, j'ai une vraie question. Oui. Okay? Là, mettons, je regarde, là, parce qu'à un moment donné, Aurélie, dans ton... ici, elle a 22 ans d'abord. Là.
Oui.
C'est une grande. Là.
Oui.
Puis là, je regarde qu'elle fait un petit concours, pas un concours, mais un test sur un site dans le genre cool fille, patente. Puis je regarde toutes les questions. Puis je me dis, t'es encore capable, quand Aurélie avait 12 ans, de personnifier totalement une fille de 12 ans. Puis là, c'est une fille de 20. Mais comment tu fais pour être connectée sur... Exactement, c'est qui, à peu près, elle représente pas l'univers, là. Mais comment tu fais pour être connecté sur c'est qui, une fille de 22, une fille de 15? On dirait que tu l'as tout le temps, tu l'échappes jamais.
T'es fin. Mais j'ai eu tous ces âges-là en moi.
Oui, mais ça fait combien de temps? C'est comme si je dis, ah, moi, je sais c'est quoi un gars de 19 ans, c'est pas vrai.
Non.
Et toi, ben non.
Tu t'en souviens plus, t'étais
ben,
comment
quand même. Ça fait 25 ans.
Ben oui, mais c'est pas grave. Tu sais, il y a des affaires qui restent universelles. Moi, je me souviens de la fille que j'étais quand j'avais 20 ans. Je me souviens de mes émotions. Je me souviens de qu'est-ce que je voulais à cet âge-là. Puis c'est comme si mes âges sont encore tout présents en moi. Tu sais, j'ai pas oublié. Tu sais, je sais pas s'il y en a quand ils deviennent adultes, ils oublient c'est qui ont été avant, mais moi, je l'ai jamais oublié. Puis c'est un peu une promesse que je me suis faite à moi-même. Tu sais, c'est comme des fois, il y en a qui se mettent en couple, puis ils oublient c'était qui était comme célibataire. Puis moi, ça, c'est une promesse que je m'étais faite quand j'ai rencontré mon chum. Je me suis dit, je veux pas oublier j'étais qui comme célibataire.
C'est pas un exercice de fusion, là.
Non, c'est ça, parce que, tu sais, des fois, là, les gens se mettent en couple, puis là, ils disent, tu sais, comme, ben non, faut que tu fasses ça, puis ça va marcher, puis tout ça, puis ils se souviennent pas à quel point que, mettons, il y avait de la peine, à quel point ils vivaient de la solitude, à quel point c'était difficile, tout ça. Puis moi, c'est comme si je me suis juré. Quand là j'étais ado là puis que mes parents me comprenaient pas là, je me suis juré, hey, moi là quand je vais devenir une adulte là, je vais m'en souvenir, tu sais, je vais comprendre encore. Puis c'est comme si j'oublie pas qui j'ai été avant, jamais. Tu sais, c'est comme oui, maintenant j'ai une vie, je gagne bien ma vie avec mes livres, mais j'oublie pas la fille qui pouvait juste se payer un set de chambre avec son argent, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme si j'oublie jamais qui j'ai été.
Okay. Mais en tout cas, ça marche, parce que c'est assez surprenant de voir à quel point tu connectes tout le temps avec la personnification. Ben, de mes yeux à moi, encore là, tu sais.
T'es pas le public cible non plus, Marc.
Non, mais, ben, je suis pas un public cible, mais je suis dans le domaine, puis je suis dans le corps.
Mais non, c'est
à un moment donné, je l'ai pas lu au complet, je l'ai reçu à la dernière minute, mais je suis tombé sur cette section-là, entre autres. Puis c'est ça que ça m'a évoqué, c'est-à-dire, t'as réussi à garder tout le temps. Même à la rigueur, je te connais, je sais que c'est même un stress. Tu veux jamais perdre le edge qui t'amène à être capable de connecter avec, électrice ou autre.
Ben, c'est important.
Tu veux pas tout à coup être l'auteur à succès qui dit je vais sortir une troisième version là, de la tarte au sucre.
Ben non, je veux tout le temps être capable de me réinventer, de me renouveler. Mais aussi, j'ai des gens autour de moi dans la vingtaine, tu sais, ça m'est souvent arrivé de consulter là, tu sais, ça c'est encore pertinent, tu sais, je pense que ça demande quand même une recherche. Tu sais, même pour les réseaux sociaux, moi ma façon d'utiliser les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement la même façon qu'une fille dans la vingtaine. Mmh. Fait que j'ai fait une recherche, tu sais, comme avec Marianne, avec des gens, Marianne, l'actrice du film.
Ouais.
Donc, avec des gens autour de moi.
C'est arrivé notamment avec la jeune fille qui était l'instigatrice d'une pétition.
Oui.
Qui a mené au tome 9 du journal d'Henri Laflamme.
Une pétition pour écrire ton livre.
Ben, ce que je t'ai entendu dire en entrevue, c'est qu'après le tome 8, la boucle était bouclée, tu sais, l'histoire était achevée, on va dire. Puis il y a des jeunes qui ont fait une pétition dans leur école pour qu'il y ait un tome 9.
Ben en fait, c'est que moi là, quand j'ai eu l'idée d'Aurélie Laflamme, j'ai eu l'idée du début, j'ai eu l'idée de la fin. Puis si tu regardes juste les titres, tu vois que tout était réfléchi. T'sais, le premier titre, c'était Extraterrestre ou presque, et le dernier titre, c'est Les pieds sur terre. Donc pour moi, tu sais, il y avait une boucle là-dedans. Puis pour moi, c'est important qu'un personnage ait un destin. Puis chacun a le droit d'écrire ses histoires comme il veut. Là, je sais qu'il y en a qui font des plein d'aventures puis tout ça. Puis c'est une différente démarche artistique. Puis tout est correct. Mais moi, c'est pas ça. Puis c'est ça. Puis quand j'ai écrit le dernier tome, volet ou ce que vous voulez, j'ai eu un gros deuil inattendu. Parce que pour moi, c'était tellement déterminé d'avance qu'il y aurait 8 tomes. Que je m'attendais pas à avoir un gros deuil comme ça. Puis je me suis dit, un jour, je vais la reprendre, tu sais, peut-être dans 10-15 ans, puis ça va se passer plus tard. Tu sais, j'avais la toune de Patrick Bruel dans la tête, là, et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans, tu sais, que à la fin de mon secondaire, on se chantait ça. Fait que, tu sais, j'avais comme un peu la même affaire. Et puis là, à un moment donné, 5 ans après la sortie du livre. Donc, le tome 8 est sorti en 2011 et là, on était en 2016 et 5 ans plus tard, je suis dans une bibliothèque et il y a une gang de petites filles qui m'amènent une pétition. Puis je leur raconte toute la même affaire que je viens de te raconter, là. Blablabla, j'ai fini, blablabla, peut-être un jour. Et je leur dis, donc, désolé, merci pour la pétition, mais bon, ça va se passer comme ça. Puis ils disent, OK, on comprend, mais on te remet la pétition. Et là, en revenant chez nous, on dirait qu'ils m'ont joué dans la tête. J'ai eu l'idée.
Là, c'est parti.
Ouais, j'ai eu le flash volé de ses propres ailes, début vingtaine, volé de ses propres ailes qui s'en vient après les pieds sur terre. Tu sais, pour moi, ça faisait un lien qui va avec mon thème.
Dans le fond, c'est que ça aurait pu déjà être planifié de même. C'est un peu ça que tu voyais, là.
Ben, en fait...
Ça marchait avec...
Ça marchait.
Tout ce qu'ils font.
Ah, oui, t'as raison. C'est comme s'ils m'ont ramené Aurélie dans ma tête. Puis, je veux pas repartir la série parce que pour moi, c'est important de rester... de respecter l'histoire, de respecter le personnage. Puis là, je trouvais que ça s'intégrait bien dans le thème. Puis là, ben, à un moment donné, peut-être qu'un jour, je vais... la reprendre. Ouais, je sais pas quand, mais si j'ai un bon flash comme ça.
India, trois petits points que je t'envoie comme ça en rafale. Juste des mots sur lesquels tu vas où tu veux. Okay. Ville de Québec?
Ben, mon enfance.
Tu viens de Québec?
Oui, ah oui, okay. Québec.
Après ça, baleine?
Ça, c'est une de mes grandes passions.
Hein? Oui, non.
Oui.
T'es passionné des baleines?
Ouais. Oui. Ben, je sais pas, j'ai combien de temps, là? Tu m'as dit en rafale?
Vas-y. Oui, mais en rafale, en voulant dire.
Bon, en rafale avec le temps que tu veux.
Oui, c'est ça. Non, en rafale, pas en voulant dire, va vite. C'est juste, c'est juste trois petites thématiques que je veux que tu abordes.
OK. Ben, les baleines, j'ai vraiment découvert que c'est une passion. Puis, tu sais, c'est un symbole, en fait, pour moi, environnemental. Parce que dans les années 80, mettons, quand j'allais à Tadoussac voir les baleines, il y en avait plein. Il y avait des baleines bleues, il y avait toutes sortes de baleines. Là, maintenant, quand j'y vais, il y en a moins. Puis.
Ils dans les bars.
Rapport!
Ben, y a pas rapport, pas
du monde qui, que t'appelles les baleines dans les bars, je sais pas.
Personne n'appelle ça de
baleine. J'appelle jamais personne les baleines.
J'essaie de te faire dire des choses controversées.
India Desjardins qui fait la controverse, ça ne doit pas arriver souvent.
Je sais pas.
Ça ne doit pas arriver souvent.
Mais.
OK, passion des baleines.
Mais oui, oui. Puis écoute, si tu commences à t'intéresser aux baleines, tu te rends compte que c'est un monde fascinant. Je veux écrire un livre documentaire là-dessus. Au niveau de leur communication, au niveau que il y a quelque chose que je savais pas, que j'ai appris, mais les baleines d'une même espèce, ils ont différentes cultures. C'est-à-dire que si tu observes une même espèce, certains groupes, ils ont différentes méthodes d'éducation d'enfants, différentes méthodes de chasse, tout ça. Donc, ils ont différentes cultures à travers les mêmes espèces. Okay. Et aussi, c'est fou, tu te rends compte qu'il y a des émotions là-dedans, il y a des deuils avec leurs baleineaux et tout ça.
Ouais.
Et j'ai commencé à développer un réel souci pour la cause animale, c'est-à-dire que le tourisme animalier, comment on le fait au Canada, au Québec, c'est quand même assez bien réglementé au niveau des bateaux. Puis on a vu l'année passée avec beaucoup d'échouages de baleines qu'il y a même eu des règlements qui ont changé.
Ouais.
Mais moi, je suis vraiment contre là, tu sais, d'aller nager avec les dauphins et tout ça. Tu sais, ce qui est le fun au Québec, c'est qu'on les observe dans leur milieu naturel. Mais si tu t'en vas, mettons, nager avec les dauphins à Cancun, ben les dauphins, même s'ils disent...
C'est un peu moins encadré, pas mal.
Sont moins bien traités. Ouais. Il y a énormément de dauphins qui meurent pour qu'ils en pognent un, pour le mettre dans le bassin, pour que tu ailles nager avec.
Okay.
Donc, j'ai commencé à développer vraiment un souci de ça, de la cause animale. Parce que, tu sais, les baleines, c'est vraiment des animaux très, très intelligents, très sensibles. Beaucoup plus près de nous qu'on
un
peut
livre
penser.
À venir, probablement, Paul.
On aura quand même réussi notre mandat.
Personne n'en parle.
Personne n'en parle de ça.
Ma passion.
Édition du 28 octobre 2018 avec India Desjardins. Merci infiniment, India, d'avoir pris du temps de ton dimanche matin pour nous.
Ben là, Raphaël, on a le temps qu'on veut. Il n'a même pas fait son troisième point.
Ah non. Il va falloir que tu reviennes peut-être quelque part dans une dizaine d'années.
On a passé crime d'une belle... On a quasiment fait une demi-heure.
Ben, c'est ça, exact. Ça passe plus vite que ce que ça paraît.
Je faisais des blagues, merci. C'était
très
fun
d'être
avec vous.
Je vais parler de Gustave.
Oh, Gustave, mon chien. Ah,
bon, ça, personne n'en parle de ça. Ça, je suis convaincu de ça. OK, il faut qu'on aille à la pause. Merci beaucoup, India. Ça a été un grand, grand plaisir de parler avec toi.
Réciproquement.
Rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même